explorer les arts, la grande table d'été commence aujourd'hui par explorer la nature. À 13h30, le réalisateur Damien Manivelle viendra nous parler des enfants d'Isadora, le nouveau film qu'il présente dans le cadre de la compétition internationale du festival de Locarno. Mais avant cela, observons la nature, inspiratrice en chef des arts et en particulier l'océan. L'océan auquel le Muséum National d'Histoire Naturelle consacre une exposition englobant les enjeux scientifiques et politiques auxquels il se confronte et l'imaginaire mythologique qu'il charrie. Un film menace guide le visiteur, représentant les dangers bien réels qui s'abattent chaque jour sur l'océan, sur exploitation, pollution au CO2 ou au plastique. Des menaces dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie de Zoé Le Camus, conceptrice et organisatrice de l'exposition, et de Guillaume Lecointre, professeur, chercheur et conseiller scientifique au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été, Maëlys Bessery.
Capitaine, un calmar géant à l'arrière. Arrêt et appel sur passe. Préparez-vous à une lutte serrée avec le plus tenace de tous les monstres marins. Éloignez-vous des tentacules, ils ne lâchent qu'avec la mort ce qu'ils ont réussi à saisir. Cet animal n'est vulnérable qu'en un point entre les yeux.
12 mètres de la surface, capitaine.
Tenez-vous prêt.
C'est avec 20 minutes sous les mers qu'on commence cette émission. Bonjour à tous les deux. Alors, 20 minutes sous les mers, le film de Richard Fleischer, adapté du roman bien sûr de Jules Verne, et c'est une histoire de calamar géant. Calamar géant qui fait partie de votre exposition, pas en personne, mais en tout cas son mythe.
Tout à fait, oui, dans l'exposition, dans la dernière partie, donc on propose justement d'observer ce calmar géant qu'on a. D'ailleurs, on expose un spécimen de calmar de nos collections, qui fait 7 mètres de long, donc qui n'est pas le meilleur représentant du calmar géant, qui peut faire jusqu'à 18 mètres. Mais voilà, on propose d'observer quand même un vrai spécimen, ainsi qu'un bec, puisque donc la bouche du calmar est en forme de bec, comme un bec de perroquet. Et voilà, donc il y a toute une partie sur la quête scientifique du calmar, et également toute une partie sur les mythes qui lui sont associés. On pense notamment, par exemple, au kraken en Scandinavie. Donc ce poulpe calmar géant aux tentacules complètement démesurés qui engloutissait des embarcations entières de pêcheurs.
Alors là, c'est cette histoire, hein, c'est l'histoire justement de Jules Verne, hein, des bateaux engloutis, l'expédition du professeur Aronnax, Guillaume Lecointre. D'où viennent tous ces mythes, toutes ces mythologies autour des créatures? Alors pas simplement des fonds inexplorés sous-marins parce que obscurs et donc qu'on ne connaît pas, mais aussi des créatures qui y habitent.
Les humains ont toujours travaillé leur imaginaire avec ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité, c'est-à-dire la diversité du vivant à toutes ses échelles, les variations dans les espèces, les différentes espèces entre elles, les relations entre les espèces dans les écosystèmes. Tout ce grand théâtre de la nature a inspiré profondément les humains pour leur imaginaire, pour expliquer le monde, pour se faire peur aussi, à des moments où on aurait envie de se faire peur. L'histoire naturelle, nous sommes du Muséum National d'Histoire Naturelle. L'histoire naturelle, à ses débuts, il y a fort longtemps, avant le XVe siècle, mélangeait une description des êtres vivants, notamment marins, et les récits qui étaient faits d'explorateurs qui avaient rencontré des espèces, mais qui ne les avaient pas décrites de manière très précise. Des dessins même sont dessinés à la Renaissance à partir de témoignages, et dans ces dessins on voit que il y a des assemblages d'organes qui sont un peu improbables, générant des moines marins, générant des formes de chimères, ce qui nous apparaît aujourd'hui comme étant des chimères. Et en effet, l'histoire naturelle a dû faire au début avec ses chimères, et en devenant scientifique, de proche en proche, le grand inventaire de la nature est devenu de plus en plus précis, et un certain nombre d'espèces, mythologiques, imaginaires, peut-être aussi mal décrites, se sont évanouies dans une description scientifique à laquelle d'ailleurs est consacrée la recherche de notre muséum à Paris.
Alors Zoé Le Camus, ce qu'on voit aussi, c'est que cette part de mythologie, elle existe encore. Pourquoi ? Parce que les fonds sous-marins sont très peu connus.
Tout à fait.
C'est le début de votre exposition d'ailleurs.
Oui, l'océan recouvre quand même 71% de la planète. Et pourtant, il est très très mal connu. On connaît donc mieux la surface de Mars que le fond de l'océan.
Alors pour quelles raisons ? Faut revenir sur ces raisons.
Pour différentes raisons, effectivement, puisque donc le milieu marin est très contraignant en fait pour l'être humain, donc terrestre, à savoir on ne peut pas donc respirer sous l'eau. Il y fait totalement noir à quasiment 200 mètres de profondeur. Et surtout, la pression de l'eau est beaucoup plus importante que celle de l'air. Donc on est soumis très rapidement, lorsqu'on plonge, à des pressions très importantes qui empêchent l'exploration facile, voilà, de ce milieu. Et donc l'homme, pour faire face à toutes ces contraintes, en fait, a développé tout un tas d'outils.
Alors, il y a toute une tentade de contraintes techniques et on retrouve au début de l'exposition une sorte d'histoire technique, finalement, des outils qui ont pu être utilisés, alors des scaphandres jusqu'aux véhicules marins.
Tout à fait. On retrace très rapidement les grands jalons de l'histoire de l'exploration. Donc voilà, avec les premières cloches à plonger du XVIe siècle. Donc voilà, on plongeait sous une cloche remplie d'air avec une corde reliée à la surface. Voilà, ensuite, petit à petit, sont apparus les scaphandres de plus en plus autonomes. Et enfin, on a eu la bathysphère aussi, donc sorte de grosse boule d'acier qui a permis de descendre jusqu'à 800-900 mètres de profondeur. Et ensuite, voilà, aujourd'hui, on utilise des robots télécommandés depuis la surface. Notamment, on présente le Victor 6000 dans l'exposition, mais aussi des engins habités, donc comme le Nautil, le fameux sous-marin jaune de l'Ifremer, qu'on présente en maquette dans l'exposition, et également sous forme de petits jeux multimédia. Donc on propose aux visiteurs de simuler une plongée à bord de ce Nautil.
Guillaume Lecointre.
Oui, il y a la pression, il y a l'obscurité, mais il y a aussi le froid.
Le froid.
On l'oublie souvent. Mais le plancher
océanique. Vous dites ça pas pour des bonnes raisons, Guillaume Lecointre, c'est que vous-même, vous partez en Antarctique
oui,
pour vos recherches.
Je fais mes recherches marines en Antarctique, en effet, mais là, pour tous les océans, je faisais allusion au grand fond océanique, dont la température est de l'ordre de plus 4 degrés. C'est à peu près votre frigo. Ça aussi, ça fait partie des contraintes. En plus de celles qu'on a déjà citées. Ouais.
Alors, ces évolutions techniques, justement, elles vont permettre divers degrés d'exploration. Et ce que l'on retrouve, c'est à la fois des archives, des documents vidéo, des documents aussi plus littéraires. Il y a toujours eu des observateurs, il y a l'exemple des travailleurs de la mer de Victor Hugo, il y a toujours eu des observateurs de ces fonds marins qui n'étaient pas des scientifiques, mais qui s'inspiraient de cette nature-là. Zoé Le Camus.
Oui, tout à fait. Comme disait Guillaume tout à l'heure, l'océan, de toute façon, est fascinant parce que justement, il est très difficile d'accès, obscur, etc. Donc, il y a voilà, des personnes qui ne sont pas forcément scientifiques s'y intéressent, et heureusement.
Alors, il y a bien sûr les récits d'aventure.
Tout à fait. Et puis, oui, donc voilà, qui ont aussi donné après les grandes expéditions scientifiques. Et par exemple, on a la Renaissance. On a Léonard de Vinci, typiquement, et puis voilà, d'autres encore qui ont inventé toutes sortes d'engins complètement fantaisistes, voilà, qui n'ont pas existé véritablement, mais voilà, qui avaient pour but de partir à l'exploration de ces fonds-là.
Guillaume Lecointre, quels sont les grands problèmes techniques qu'on a résolus ces dernières années pour pouvoir justement aller faire des recherches dans les fonds marins, sous l'océan ?
Ouh, on est loin d'avoir tout résolu. Sans entrer dans des détails trop techniques, il y a certaines couches d'eau, on va dire ça. Il y a certaines profondeurs pour lesquelles on n'a pas encore tout à fait les moyens techniques de travailler à main d'homme. J'entends par là, si vous voulez, sur une zone moyenne, prélever des organismes côtiers, eh bien c'est trop profond pour des plongeurs. C'est pas assez profond peut-être pour d'autres moyens que sont les chaluts et encore, on n'envoie pas des chaluts sur des pentes trop escarpées. Il y a des endroits de l'océan, à cause du relief et de leur profondeur moyenne, pour lesquels les moyens mis en œuvre sont encore insuffisants pour une bonne exploration de la biodiversité. Là, je ne parle que d'océanographie biologique. Évidemment, il y a plein d'autres choses à explorer dans l'océan, notamment sa physique, sa chimie. Mais si on parle de biologie, eh bien, il y a des zones comme on dit vulgairement, il y a des trous dans la raquette. Et il y a des dispositifs à l'interface des sciences médicales et des sciences océaniques qui sont en train d'être inventés pour permettre à des plongeurs d'accéder à des pentes escarpées à des profondeurs moyennes tout en ayant les réserves d'oxygène suffisantes. Donc c'est le rapport entre l'oxygène et l'humain qui est en train d'être travaillé.
Donc des recherches pour pouvoir continuer les recherches.
Voilà, c'est ça, des recherches pour continuer les recherches.
Alors Zoé Le Camus, vous cette exposition, donc une fois qu'on arrive dans ce monde des océans, il va y avoir un focus fait sur la vie marine et en particulier sur le plancton, avec l'explication scientifique, de vulgarisation scientifique de ces réseaux générés par le plancton qui posent des questions écologiques majeures.
Tout à fait. La deuxième partie de l'exposition donc aborde le plancton et notamment le plancton microscopique. Donc tous ces organismes du plancton ont comme caractéristique commune en fait de dériver au gré du courant. Ils ne peuvent pas aller contre le courant. Ils sont pris dans une sorte de viscosité en fait. Voilà. Et dans l'exposition, voilà, on aborde notamment le rôle primordial du plancton dans le réseau trophique, dans tout le réseau alimentaire en fait. De l'océan, le phytoplancton est à la base de ce réseau, donc il a un rôle très important et il est mis en péril d'une part par l'acidification de l'océan, donc le fait que l'océan capte un quart des émissions de CO2 produites par les activités humaines, mais également par le microplastique qui est ingéré par le plancton.
Alors ces questions-là écologiques sont majeures. D'ailleurs, il y a ce fil rouge qui permet de créer une sensibilisation du public, du jeune public, mais pas que. D'ailleurs, Zoé Le Camus, justement, c'est l'un des partis pris de l'exposition que de voir les enjeux aussi écologiques qui sont déjà en cours, puisque on parle de 260 kilos de plastique par seconde.
Alors c'est 206 kilos de déchets, de macro déchets de plastique qui sont déversés chaque seconde dans l'océan, ce qui est
plastique à usage unique essentiellement.
Tout à fait, c'est le problème majeur du plastique, c'est qu'il est à usage unique, donc une fois qu'on l'a utilisé une fois on le jette et il finit, donc il y a une grosse partie de ce plastique qui finit dans l'océan en fait qui vient des terres. Et ensuite, il se désagrège en tout petits bouts, donc le microplastique sous l'effet des courants, du soleil, etc. Et voilà, et c'est comme ça en fait qu'il s'insinue dans tout le réseau. Et donc oui, donc comme vous le disiez, on a pris comme parti pris justement d'avoir un fil rouge menace, c'est-à-dire que voilà, on a essayé de susciter donc l'émerveillement du public au travers de la découverte d'organismes insolites
et toutes sortes de poissons, d'individus, comme vous dites individus, hein, c'est ça le terme que vous utilisez, qui ont été ramenés d'ailleurs par des chercheurs du Musée de l'Homme.
Oui, alors du muséum, oui, oui, au cours des expéditions scientifiques, donc toujours menées aujourd'hui. Voilà, on a demandé aux chercheurs de nous ramener certains spécimens dont on avait besoin, puisqu'en fait, il faut savoir que on a de très grandes collections donc au Muséum d'Histoire Naturelle, mais la problématique des collections de spécimens marins, c'est que ce sont majoritairement des collections en fluide. C'est-à-dire que les spécimens, en fait, sont conservés dans l'alcool. Et l'alcool dénature les spécimens. Donc, notamment, elle les décolore. Et ils perdent un petit peu leur forme également. Donc, à présenter au public, c'est pas toujours très facile de faire parler ces spécimens. Donc là, voilà, on a pu se faire ramener récemment des spécimens qui ont été congelés, en fait. Et ensuite, on les donne à notre taxidermiste au muséum. Et c'est lui qui les prépare ensuite, qui les fait sécher, qui leur redonne leur couleur initiale, etc.
Et on va retrouver, d'ailleurs, de très beaux spécimens, très colorés. Sur fond noir, il va y avoir aussi un montage de film. Guillaume Lecointre.
Oui, et justement, s'agissant du plancton, puisqu'on en parlait, le plancton, ça ne se taxidermise pas. On ne peut pas montrer d'empaillé de plancton. Alors, il y a un très beau parti pris dans l'exposition qui consiste à faire immerger le public dans un écran circulaire et qui met le public à l'échelle du plancton. C'est-à-dire que vous allez voir des êtres que vous n'avez peut-être jamais vus.
On rentre dans une goutte. Hein,
vous rentrez dans une goutte et vous voyez des êtres passés, vous vous demandez si c'est un film de science-fiction qu'on est en train de voir ou pas, mais non, c'est vraiment le plancton marin. La mer, c'est un bouillon de vie, et c'est là qu'on en prend conscience. Le parti pris de l'exposition, en effet, c'est l'océan insolite, c'est-à-dire c'est de montrer à nos auditeurs et au public un océan dont ils ne se douteraient pas. Il n'y a pas de baleines, vraiment. Il n'y a pas de dauphins, vraiment.
Il n'y a pas beaucoup de mammifères, de manière générale.
Il n'y a pas, voilà, de mammifères.
C'est plutôt les micro-organismes qui
vous intéressent. Il n'y a pas trop de récifs coralliens non plus. Enfin, tous ces items canoniques, j'ai envie de dire, habituels, par lesquels on voit la beauté de l'océan. Ben cette fois-ci, on vous montre le complémentaire. Ça ne veut pas dire qu'on vous montre du moche, hein, c'est pas ce que je veux dire.
Non, c'est très beau, il y a de très belles couleurs, de choses assez peu identifiables pour le public non averti.
On montre du surprenant. Par exemple, il y a un ver géant qui ressemble à un balai. Bon, il faut le voir quand même pour le croire. Les êtres vivants ne cessent de nous surprendre, surtout dans l'océan, parce que dans l'océan, on ne s'y promène pas. On ne s'y promène pas et c'est le parti pris de l'expo que de surprendre, tout en ayant ce deuxième fil rouge dont parlait ma voisine tout à l'heure, c'est les menaces en effet qui pèsent sur l'océan. Ces microplastiques, puisqu'on se parlait du plancton, ils forment des microparticules qui ont une taille suffisante pour que le zooplancton les ingère, les prenne comme un aliment.
Vous expliquez ces différences entre les avalent, plancton et zooplancton.
Peu importe, mais disons qu'une partie du plancton va manger ce plastique, et ce plastique n'est pas évidemment digeste pour eux. Il va donc bloquer les voies digestives de ce petit animal, de ce micro-animal, et va le tuer. Mais ce microplastique, il faut avoir conscience que c'est un tueur en série. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a tué celui qui l'a avalé, soit va se décomposer, soit va manger par un autre, mais le plastique est à nouveau disponible pour refaire ses méfaits sur le second, et sur le troisième, et sur le quatrième.
Alors, car le plancton nourrit des poissons, qui nourrissent de plus gros poissons jusqu'à l'homme.
Ce qui fait que ce microplastique nous arrive jusqu'à nous. Il faut quand même savoir que y a un mois, il y a cette nouvelle qui est tombée, que selon laquelle un occidental ingérerait dans une semaine l'équivalent en poids d'un microplastique d'une carte bancaire.
Alors justement, ces données-là, vous avez demandé à un certain nombre de grandes figures du monde de l'écologie de s'exprimer sur ces questions-là. On va écouter la navigatrice Isabelle Autissier en parler. C'est un extrait de ce qu'on peut voir et entendre dans l'exposition.
Combat prioritaire pour l'océan, climat. Climat, 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 climat. Je ne sais pas combien de fois il faut le dire. Aujourd'hui, le dérèglement climatique, évidemment, non seulement engendre un réchauffement des océans, donc une migration des espèces, une déconnexion des espèces avec leur milieu, donc un écroulement vraisemblable de la biodiversité marine, mais également une acidification de l'océan. Et ça, c'est tout à fait dramatique. Par exemple, un océan plus acide va dissoudre le calcaire, dont sont faits une grande partie du plancton marin. Or, le plancton marin émet de l'oxygène qui nous permet aujourd'hui de respirer. Une respiration sur deux que vous prenez aujourd'hui vient du plancton marin. C'est un exemple. Deuxième exemple catastrophique de l'augmentation de la température de l'eau, c'est la mort du corail un peu partout dans le monde. On considère qu'à 1,5 degré, 70% du corail va être mort. À 2 degrés de réchauffement, et on y va malheureusement tout droit, 99% du corail va mourir. Or, les poissons du corail aujourd'hui nourrissent 2 milliards de personnes, 2 milliards d'êtres humains. Qu'est-ce qu'on va donner à manger à ces gens-là? Où est-ce qu'ils vont aller? Quelles conséquences humaines, dramatiques, ça va pouvoir entraîner sur la vie des humains? De toute évidence, il y a beaucoup de dangers autour de l'océan. On peut parler du plastique, on peut parler de la surpêche, mais le climat, c'est la donnée fondamentale. La vie dans l'océan s'est construite autour d'un climat stable. Ce climat est déréglé aujourd'hui et les conséquences sont dramatiques.
Alors on va reprendre ces points évoqués justement par Isabelle Autissier. Zoé Le Camus, d'abord ce que l'on respire, c'est parce que le plancton produit cet oxygène-là nécessaire à la planète, hein, à peu près 50%, c'est ça?
Tout à fait, on doit une respiration sur deux au phytoplancton. Ce qui est énorme, c'est le poumon quasiment majoritaire de la planète.
Alors ce qui est moins connu, hein, donc sa destruction génère aussi tous ces problèmes-là en série. Et à cette question-là est liée aussi la question de ce que nous absorbons. Alors vous avez parlé du plastique, il y a d'autres problèmes évoqués comme celui du réchauffement. Ces thématiques sont menées un peu en parallèle dans l'exposition. Il y a à la fois, vous avez montré comment ces milieux se sont adaptés, et comment les individus dans l'océan se sont adaptés, et en même temps, les dégradations en cours.
Oui, tout à fait. Bah, on montre notamment dans la partie 3 les adaptations de certains organismes à des milieux qu'on dit, nous, extrêmes, donc le très profond ou le froid. Mais là, on parle des menaces qui pèsent aujourd'hui sur ces organismes-là, qui vont probablement pas avoir le temps justement de s'adapter à ces problématiques très, très récentes finalement.
Alors oui, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'adaptation? Pourquoi est-ce que finalement ces organismes qui ont été capables de développer des capacités à voir, des capacités à distinguer, des capacités à s'adapter aux températures, pourquoi est-ce qu'elles ne pourraient pas s'adapter à ces dégradations?
Parce que ce ne sont pas les individus qui s'adaptent, ce sont des populations. L'individu, il s'acclimate, éventuellement il a une marge de tolérance. Mais ce qu'on appelle le phénomène d'adaptation, c'est un phénomène populationnel. Il faut plusieurs générations pour qu'une population ait réussi à faire sortir les variations qui leur permettent de survivre dans les nouvelles contraintes du milieu dans lequel ils sont.
Donc c'est la rapidité de la dégradation.
Exactement. Il y a une question de temps là-dedans. C'est que quand on parle de population, on parle de temps de génération. Et en effet, une population, voire une espèce, se trouve menacée lorsque les changements auxquels elle fait face sont trop rapides pour le temps de génération de ces organismes. C'est une des raisons majeures pour lesquelles un grand nombre d'espèces à la surface de la planète sont menacées aujourd'hui, car la vitesse du déchangement climatique et la vitesse de changement des milieux, là on fait allusion au réchauffement des premiers mètres des couches d'eau de l'océan.
Isabelle Autissier faisait allusion au corail, justement.
Alors voilà, au corail, mais l'acidification aussi, qui va très vite. Et puis, sans parler des plastiques qui jouent. Alors, sur le corail, typiquement, là, on va vers une extinction massive. Tous les deux mois, il y a un gros papier qui sort dans les grandes revues vitrines où notamment les Australiens font un gros travail sur le corail. Évidemment, en Australie, il y a la fameuse barrière de corail qui est très suivie, très très analysée.
Alors qu'il se dégrade pour quelle raison? Le réchauffement plutôt climatique.
Il y a trois menaces principales. La première, en effet, c'est le réchauffement des premiers mètres de la couche d'eau du Pacifique Ouest. Voilà. Lors des années un peu plus chaude, l'augmentation de température fait mourir des petits organismes qui vivent avec le corail. Ce sont ce qu'on appelle des symbiotes, des petits organismes, on les appelle les zooxanthelles, hein, qui fournissent au corail des nutriments, mais qui hébergent ce corail aussi. Et bien, ces zooxanthelles, lorsqu'il fait trop chaud, meurent. Elles font perdre la couleur au corail, d'où l'expression blanchissement du corail. Le corail devient blanchâtre. Et il peut rester blanchâtre pendant un petit temps, mais si ça dure trop longtemps, le corail lui-même finit par mourir. Et ceci en raison des eaux trop chaudes. L'acidification impacte aussi le corail, car le corail, son squelette se construit dans la dimension verticale, mais aussi en épaisseur. Eh bien, une eau trop acide diminue l'épaisseur du squelette du corail et il devient plus fragile.
Alors d'ailleurs, plus facilement. L'une des questions évoquées, Zoé Le Camus, dans l'exposition, c'est aussi ce que vient de dire Isabelle Autissier, à savoir les populations qui, elles, se nourrissent de ces poissons qui ne seront pas produits de par la dégradation, notamment la dégradation du plancton et l'effet en chaîne que ça va entraîner. Alors vous avez proposé une section dans laquelle vous montrez le type de poisson que l'on peut encore aujourd'hui consommer ou pas.
Tout à fait, on a un petit dispositif dans la partie 4 de l'exposition sur la surexploitation de l'océan et notamment donc la surpêche, où on place le visiteur en fait face à l'étal du poissonnier et on lui propose 8 espèces de poissons, enfin 8 espèces d'organismes marins, puisqu'il n'y a pas que des poissons. Et voilà, on lui demande de choisir selon lui lesquels il peut acheter et lesquels il devrait ne pas consommer.
Puisque, alors surtout pas le cabillaud.
Alors surtout pas le cabillaud, surtout pas la coquille Saint-Jacques qui vit sur les fonds sédimentaires, plutôt souvent très pollués et qui nécessite en fait de dégrader le sol de l'océan sur 20 cm de profondeur, ce qui est quand même énorme. Surtout pas les crevettes, qui, donc lorsqu'elles sont pêchées, en fait, occasionnent des prises accessoires, donc c'est-à-dire des espèces qu'on ne veut pas pêcher, en fait, et qui sont rejetées à la mer. On estime à peu près 1 kg de crevettes, 10 kg de prises accessoires, ce qui est quand même énorme. Voilà, c'est notamment les trois grosses espèces qu'on montre.
Alors sur d'autres questions qui sont celles aussi du réservoir que représente l'océan, il y a toutes ces pistes pour la recherche, notamment la recherche médicale qui est faite à partir de l'observation de ces fonds marins. Peut-être quelques mots là-dessus, Zoé Le Camus.
Oui, tout à fait. L'océan est donc très vaste et c'est un milieu très dilué dans lequel bon nombre d'organismes en fait vivent fixés. On pense notamment aux coraux, aux éponges. Et en fait, face aux menaces qui pèsent sur ces organismes-là, ces organismes justement ne peuvent pas fuir face à ces menaces puisqu'ils sont fixés. Et ils ont développé tout un arsenal chimique, donc des petites molécules en fait qui relarguent dans le milieu. C'est des molécules très concentrées et très puissantes. Et en fait, en les étudiant, les scientifiques se sont rendus compte que ces molécules pouvaient avoir des propriétés très très intéressantes, et notamment dans des domaines de recherche ou dans le domaine médical.
Alors des antidouleurs, peut-être vous pouvez nous donner un ou deux exemples. Il y a l'histoire du cône magicien.
Oui, tout à fait, le cône magicien qui est assez rigolo. Donc c'est un cône qui a à peu près à sa disposition 200 toxines en fait, qu'il utilise pour capturer ses proies.
C'est un prédateur au départ.
C'est un très grand prédateur, oui, qui fait assez peur d'ailleurs quand on regarde des vidéos de cône magicien.
Peut-être le décrire, hein, il a une sorte de trompe.
Oui, une sorte de trompe. Il endort sa proie avant d'arriver, il l'englobe justement, il dévagine cette trompe, il englobe tout le poisson et ensuite il le pique avec un harpon et puis il l'ingère, voilà. Et donc, en étudiant ces venins, les scientifiques se sont rendus compte qu'il y en avait, il y avait une molécule qui était particulièrement facile à synthétiser en laboratoire. Et on a inventé donc le Prialt, qui est aujourd'hui utilisé en milieu hospitalier et qui est 1000 fois plus puissant que la morphine et sans accoutumance.
Donc il y a tout ça aussi qui existe comme réservoir de recherche. Il y a aussi toute une partie sur les questions esthétiques. Alors la nature a toujours été un modèle esthétique, mais il y a certains objets marins, notamment les moins connus, dont on voit que finalement ils ont inspiré les lignes de modèles industriels, par exemple, Zoé Le Camus. Alors, de voitures, des poissons qui inspirent des formes de voitures.
C'est ce qu'on appelle la bio-inspiration. Et c'est une approche plutôt philosophique, en fait. Voilà, la nature, donc la vie, existe depuis 4 milliards d'années. Elle a probablement été confrontée à bon nombre de problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, être humain. Donc, elle y a trouvé sûrement des solutions. Allons les chercher dans la nature. Et donc, voilà, on s'en sert, par exemple, donc pour en architecture, pour essayer de trouver des formes plus adaptées. On s'en sert pour l'hydrogène. Hydrodynamisme, pour là essayer de trouver par exemple pour construire des hydroliennes plus efficaces, ou encore pour certains matériaux qui peuvent être intéressants, donc des matériaux qui, par exemple, des colles en milieu humide, puisque la moule, par exemple, colle au rocher avec justement un byssus, donc, et ce byssus intéresse aujourd'hui les médecins, puisque en essayant de synthétiser une molécule similaire, on pourrait peut-être réparer des lésions internes dans le corps humain, une sorte de colle, voilà.
Alors, je vous propose d'écouter un petit extrait de Moby Dick qui parle lui aussi de calamar.
Oubliant presque Moby Dick pour l'instant, nous contemplions le plus prodigieux phénomène que les mers secrètes aient jusqu'à ce jour révélé aux hommes. Une vaste masse pulpeuse, d'une envergure fabuleuse, d'un blanc éblouissant, flottait à la surface de l'eau. Des bras innombrables rayonnaient de son centre, se lovaient et se tordaient tel un nid d'anaconda, comme pour saisir aveuglément ce qui pourrait par malheur se trouver à leur portée. Masse uniforme, elle n'avait point de visage, rien qui pût permettre de lui prêter un instinct et des sensations, mais elle ondulait là sur la houle, surnaturelle, informe image incompréhensible de la vie. Tandis qu'elle disparaissait avec un faible bruit de siphon, Starbuck, les yeux encore fixés sur le bouillonnement de sa disparition, s'écria avec colère. « J'aurais préféré rencontrer Moby Dick et lui livrer combat, plutôt que de t'avoir vu toi, fantôme blanc. »« Qu'était-ce, sœur ?» demanda Flask. Le calmar géant lui-même, dont on dit que les rares baleiniers qui l'ont vu ne rentrèrent jamais au port pour en parler.
Alors cet extrait de Moby Dick, bien sûr, de Melville, c'est ce que permet la littérature, Guillaume Lecointre, ce glissement entre le mythe et la réalité, en tout cas cette frontière-là qui est abordée dans l'exposition. On en a dit quelques mots tout à l'heure autour de trois créatures. Alors il y a le calamar, il y a aussi le serpent de mer, le régalec.
Oui, il y a des animaux qui sont plus puissants que les mythes finalement. Ils sont tellement surprenants que, en les voyant, on se dit que les humains ne les auraient jamais imaginés. Le régalec, c'est un poisson de 8 à 10 mètres de long, en forme de ruban, avec une face, si on le regarde de profil, on lui trouve une face aplatie. Enfin, c'est très très curieux, comme il a une espèce de toupet rouge sur la tête. Et cet animal le nage en posture verticale, la tête en haut. Il a la particularité de pratiquer l'automutilation de son corps. Ça, c'est quelque chose d'assez amusant. Imaginez que vous avez besoin de faire des économies, eh bien, vous sectionnez une partie de votre corps et vous êtes plus léger. Ça fait un régime Weight Watchers idéal.
Il fait ça pour des raisons alimentaires ?
Alors, plus sérieusement, on ne sait pas exactement pour quelles raisons. En tout cas, en arrière, ce qu'on appelle la queue du poisson, hein, en l'arrière de l'anus, donc la partie de la colonne vertébrale postérieure, elle est perdue naturellement. L'animal n'en meurt pas, bien sûr, n'en souffre pas. Et cette perte naturelle d'une partie du corps, on l'interprète soit comme quelque chose qui la protégerait potentiellement des prédateurs. Imaginez que le régalex soit mordu par l'arrière, il peut s'auto-sectionner sa queue et ne pas souffrir de la blessure. On peut aussi penser que, en cas de pénurie alimentaire, cette façon de retirer une partie de son corps, c'est moins d'énergie à consacrer à la croissance de la queue de l'animal. Oui.
Alors cette question...
On n'a pas de réponse définitive sur ce mystère.
Alors ça, c'est l'animal réel. Il y a aussi les créatures mythologiques. Et finalement, dans cette section-là, ce que l'on comprend, Zoé Le Camus, c'est que finalement, la question des monstres est à la fois une question réelle et une question imaginaire en ce qui concerne l'océan.
Alors tout à fait, nous dans cette partie-là, on a vraiment voulu montrer cette frontière qu'il y a justement entre la réalité et le mythe. C'est pour ça aussi qu'on a choisi de montrer pour chaque organisme en fait des spécimens réels, vraiment pour montrer qu'ils existent tout à fait. Mais voilà, associés à chacun d'eux, des mythes qui sont encore très tenaces aujourd'hui.
Parfois fondés sur des bouts de réalité, hein, c'est l'histoire du serpent de mer notamment.
Oui, le régalec en effet n'est pas un serpent, je précise. Parce que
Alors que le serpent de mer existe.
Alors voilà, c'est compliqué. Les régalex sont des poissons osseux, hein, des poissons osseux, voilà, tout à fait réels. Et par ailleurs, il existe des serpents de mer, mais qui ne font pas la taille du régalex. Il existe des serpents de mer, notamment en Australie, qui sont de véritables serpents.
Ils sont venimeux.
Adaptés à la vie marine, ils sont venimeux, mais ils ne font pas 8 mètres de long, ils font 1 mètre, 1 mètre 20 de long.
Ah, ça va alors. Le Camus, ce qu'on se dit, c'est que finalement, les questions de fiction, elles sont totalement associées. D'ailleurs, elles l'ont été dès le départ, les bandes dessinées, les dessins, la peinture, la littérature. On voyait que cet imaginaire collectif est à double tranchant, puisqu'il a pu aussi générer un certain nombre de peurs ou de méconnaissances.
Tout à fait. L'imaginaire est vraiment foisonnant sur tous les animaux marins, puisque donc milieu inaccessible, donc là notre imagination peut tout concevoir. Et oui, ça peut être effectivement source de mauvaises interprétations pour certains spécimens, notamment je pense au sélacanthe, on lui associe souvent le mythe du fossile vivant.
Sélacanthe, faut expliquer ce que c'est.
Alors donc sélacanthe, donc c'est un poisson.
C'est un très gros poisson.
Très gros poisson qui peut faire jusqu'à 2 mètres à peu près. Et en fait, donc c'est un poisson qu'on connaissait très bien sous forme fossile et qu'on en a découvert un en fait vivant en 1938.
Alors qu'on pensait que ça n'existait plus.
Exactement, on le pensait disparu en fait depuis la crise qui a vu donc l'extinction des dinosaures. Et donc voilà, on en a pêché un vivant. On s'est demandé comment il avait pu échapper à notre connaissance en fait pendant tout ce temps. Et voilà, mais avec cette redécouverte, on lui a associé donc le mythe du fossile vivant, comme quoi en fait ce poisson n'aurait pas évolué depuis justement les dinosaures, qu'il était allé se cacher dans des grottes et qu'aujourd'hui il remontait à la surface, mais
c'est pas vrai.
Alors Guillaume, non, peut-être Guillaume peut préciser.
En effet, le vivant, il varie tout le temps. Le carburant de l'évolution, c'est la variation. Il est impossible d'avoir des êtres vivants aujourd'hui ayant parcouru un lignage généalogique de plusieurs millions d'années sans que les variations qu'il a subi lui ait permis de faire face aux aléas, aux contraintes de l'environnement. Ce lignage, s'il s'est maintenu, c'est qu'il varie. Qui dit variation et héritage, bien sûr, dit évolution. En fait, le sélacanthe n'a pas beaucoup changé dans sa forme, mais dans sa constitution matérielle, il a évolué, il a changé. On en veut pour preuve, par exemple, qu'il existe une deuxième espèce de sélacanthe découverte en 1998 sur les côtes de l'Asie du Sud-Est et qui est la deuxième espèce de sélacanthe qu'on connaisse et qui a divergé de l'espèce dont on parle il y a à peu près 35 millions d'années. Donc ça veut dire que les sélacanthes évoluent, il y a plusieurs espèces. Voilà. Donc si on trouve une forme fossile qui est proche de la forme d'aujourd'hui, ce n'est jamais que la forme. La forme n'est pas tout de l'organisme.
Alors, ces formes sur lesquelles vous avez travaillé, d'ailleurs, il y a une dimension assez esthétique de l'exposition qui est aussi rythmée par un certain nombre de jeux. Un travail sur l'esthétique visuelle, sur la photographie, comme vous avez pu le dire, le film, mais aussi le son. On va en écouter un extrait. les ambiances sonores autour desquelles Céline Garcia a travaillé. Ça s'appelle Antichambre.
Tout à fait, oui. C'est l'antichambre, donc juste avant, c'est dans la partie 5 de l'exposition. Et oui, donc on l'a fait travailler en fait sur différentes ambiances sonores, donc des nappes comme ça de sons qui rythment l'ensemble des parties de l'exposition. Et donc voilà, là ici c'était voilà, on lui a donné en fait le contenu, nous ce qu'on voulait y mettre voilà dans ces parties là et ensuite elle a imaginé avec voilà toutes les images qu'on a pu lui fournir, toutes les explications qu'elle a pu avoir sur le contenu, etc. Elle a essayé de créer voilà des ambiances qui reflétaient toute cette dimension, et là notamment la dimension très onirique de cette partie.
Alors parce qu'il y a une des dimensions de cette exposition, c'est aussi ça, c'est aussi montrer ce que l'on a peu de chance de voir de ses propres yeux, puisqu'on parle quand même d'un océan assez profond, Guillaume Lecointre.
Oui,
partez en expédition dans l'Antarctique, mais c'est pas le cas de tout le monde.
Oui, il y a le profond et il y a les zones difficiles d'accès comme les pôles, en effet. Oui. Le profond, j'ai envie de dire, c'est logique, ce sont des milieux dans lesquels l'humain n'a pas évolué, ne sait pas, son lignage ne s'est pas adapté. Il est normal qu'on y trouve des organismes tout à fait surprenants. J'aime beaucoup dans l'exposition cette image des grands fonds où on voit un concombre de mer volant. Alors quand je dis volant, je devrais dire nageant. Mais c'est fabuleux quand on regarde cet animal et qu'on n'a pas de notion de zoologie, on se demande vraiment ce que c'est. Mais on se demande vraiment ce que c'est. C'est comme si on avait inventé un être de fiction, hein, dans un film de science-fiction précisément. Un concombre de mer, imaginez un concombre normalement qui est allongé en long sur le fond océanique, bah celui-là, il a des pseudopodes et il arrive à s'en servir pour quitter le fond et nager dans la colonne d'eau. Et ça ressemble à rien, ça ressemble vraiment à rien. Donc je vous conseille le concombre de mer qui nage. Alors, pour parler de l'Antarctique, oui, les milieux inhospitaliers pour nous sont des milieux où nous continuons de découvrir un grand nombre d'espèces. L'océan n'a pas livré, évidemment, toute la liste de la biodiversité qu'on peut y trouver. Quand on fait un chalut en Antarctique, la plupart de ce qu'on remonte en masse, par exemple 700 mètres de profondeur, la plupart des organismes que l'on remonte en masse ne sont pas encore décrits de la science. C'est vrai aussi du Pacifique Ouest, par exemple. Sur les grands fonds du Pacifique Ouest, plusieurs dizaines de pourcents d'un chalut qui remonte n'est pas décrit de la science. Pour ce qui est de l'Antarctique, c'est particulier en réalité parce que ces organismes sont adaptés au froid. On montre d'ailleurs dans l'exposition des spécimens de poissons des glaces. Alors eux, ils sont connus quand même, hein, on n'en décrit pas tous les jours, ils sont quand même connus depuis quelques décennies, mais ce sont vraiment des êtres surprenants parce que ils ont cette capacité de présenter dans leur sang des protéines antigèles. Un poisson, il a la température de son corps qui est la même que celle du milieu dans lequel il se tient. Si l'eau est à 0 degré Celsius, ce qui est le cas en Antarctique, hein, en côtier, dans la région côtière, l'eau elle peut atteindre moins 1. L'eau de mer, je rappelle qu'elle ne gèle qu'à moins 1,86 degrés Celsius.
C'est important de le rappeler parce qu'on n'a pas tous en tête ça.
Voilà, l'eau de mer ne gèle qu'à quasiment moins 2, donc l'eau peut être à moins 1, elle peut être à 0. Et dans ces régions-là, eh bien, ces poissons ont leur corps à l'intérieur qui est à une température de moins 1. Ils sont en risque de geler parce qu'ils ne sont pas aussi salés que l'eau de mer. Si l'eau de mer ne gèle pas à 0, c'est parce qu'elle est salée. Le corps du poisson, lui, est beaucoup moins salé. Il risque de geler, mais il y a ces protéines antigèles qui bloquent la formation des cristaux de glace. Et c'est la raison pour laquelle ces animaux ont suscité l'intérêt de beaucoup de biologistes.
Guillaume Lecointre, vous parlez justement des particularités que l'on a pu trouver chez certaines espèces. Il y a aussi les maladies que l'on a pu découvrir et qui sont en lien avec l'environnement aussi qui a pu être observé.
Oui, là, c'est beaucoup plus proche de nous. Il s'agit de l'Atlantique Nord. On pourrait se demander quelles sont les conséquences dans notre vie quotidienne, quelles pourraient être les conséquences du réchauffement de l'océan. Alors, il y a des conséquences de très long terme qui est la fonte des glaciers au Groenland, par exemple, et en Antarctique, qui pourrait produire dans les décennies qui viennent une élévation du niveau global marin. Et ça impacte nos côtes, bien sûr, mais ça, c'est du long terme. Dans du très court terme, l'augmentation de la température des premiers mètres de l'océan, dans le très court terme, eh bien, ça a une incidence médicale. On a découvert, il y a 2 ans, une équipe américaine a réexploité les registres de prise de température tous les mois depuis plus de 50 ans sur l'Atlantique Nord. Et on peut répertorier quelles sont les années chaudes, exceptionnellement chaudes. Et comme des prélèvements dans la colonne d'eau ont été faits pendant ce long travail d'enregistrement, eh bien, on peut connaître la densité du phytoplancton. Et on sait que pendant les années chaudes, le phytoplancton explose. Il est très très dense. Et comme il explose, il est dense, il porte aussi à sa surface des bactéries qui, elles aussi, se développent. Et dans ces bactéries, il y a les vibrios qui sont les agents du choléra.
Et on a pu observer des corrélations entre ces moments de réchauffement et l'explosion des épidémies.
C'est ça. C'est en fait, les années très chaudes pour l'Atlantique Nord, il correspond une recrudescence des cas de choléra après baignade sur la façade est du continent américain, la côte américaine, et sur la façade ouest de l'Europe.
Zoé Le Camus, on voit que derrière ces questions médicales et scientifiques se cachent aussi des enjeux politiques qui sont évoqués aussi à la fin de cette exposition, à savoir ne serait-ce qu'une conception différente de l'océan, de ne plus nécessairement le voir comme un réservoir à exploiter, mais aussi de chercher à voir les méthodes de préservation qui peuvent passer par des gestes individuels aussi ou des décisions politiques.
Tout à fait, c'est ce qu'on a essayé de montrer d'ailleurs au travers du fil rouge menace. Et voilà, on explique vraiment les menaces qui pèsent et on a essayé en fait sous forme de jeu de montrer aux visiteurs quel impact il pouvait avoir en fait à son échelle, quel changement il pouvait apporter dans son quotidien pour essayer voilà d'avoir un impact plus positif sur l'océan.
Et alors, enfin, quelques exemples outre le plastique.
Oui, tout à fait. Donc, réduire effectivement l'utilisation des plastiques à usage unique, et aussi également sur l'émission en fait du CO2 qui donc acidifie l'océan. Donc oui, réduire les transports, prendre des transports en commun, prendre le vélo, réduire ses déchets, avoir des maisons beaucoup plus économiques en énergie, moins construire, avoir une agriculture beaucoup plus raisonnée.
Toutes ces questions dont on n'imagine pas qu'elles impactent aussi l'océan, même si elles sont liées aux activités terrestres.
Exactement, mais ça a un impact réel, notamment avec l'acidification. Et on a parlé tout à l'heure aussi de la surpêche, donc voilà, limiter sa consommation de poissons. Et
Guillaume Lecointre.
Impact en chaîne aussi, impact réel, mais aussi impact en chaîne. Tout à l'heure, on parlait des récifs qui sont impactés par le réchauffement et par l'acidification. Ces récifs coralliens dont je parlais, ils sont une concentration de biodiversité. Ce sont des points chauds de biodiversité. Il y a énormément d'espèces qui dépendent du récif corallien, de mollusques, de poissons, de vers, et j'en passe. Si les récifs disparaissent, ce sont des centaines de milliers d'espèces en cascade qui disparaissent.
Alors derrière cette question, il y avait aussi la question politique de, par exemple, donner un statut juridique à l'océan, qui est une question évoquée par Nicolas Hulot dans une des vidéos, Zoé Le Camus.
Oui, tout à fait. En fin d'exposition, voilà, Nicolas Hulot, on lui a demandé justement les priorités pour lui, dans la préservation de l'océan. Et voilà, il demande qu'on donne un statut juridique à la haute mer, donc, et aussi de vraiment se mettre au chevet. Il emploie ce terme-là, de se mettre au chevet de la Méditerranée, qui est une mer semi-fermée et qui subit de très nombreuses pollutions et qui a besoin d'accords et de voilà pour être préservé.
Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui.
Merci à vous.
Je rappelle que l'exposition Océan, une plongée insolite est à voir au Muséum national d'histoire naturelle de Paris dans la grande galerie de l'évolution jusqu'au 5 janvier.
Niemand hört es, als ich schreie.
Promat Nieman Vitalik et Rebecca Warrior qui s'allient en un duo qui répond au nom de Compromat avec un premier album, Tram und Existenz, sorti en avril dernier. Compromat sera en concert le 23 août au Festival Rock en Seine à Paris, le 19 septembre à Ramonville et le 20 septembre à Nantes. Il est 13h30, bienvenue sur France Culture. Si vous nous rejoignez, c'est la seconde partie de la Grande Table d'été avec pour invité le réalisateur Damien Manivelle. C'est une histoire qui en inspire une autre, l'histoire tragique de la grande danseuse américaine Isadora Duncan, mère meurtrie, qui mua son deuil en un solo de danse. Dans son quatrième long métrage, Les enfants d'Isadora, Damien Manivelle propose à ses personnages de partir sur le chemin créatif qui mena à la catharsis sur un solo de danse. Damien Manivelle est aujourd'hui l'invité du portrait de la Grande Table d'été. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer par commenter peut-être cette musique, une étude d'Alexandre Scriabine que vous avez choisie, pas pour n'importe quelle raison.
Alors, c'est pas moi qui l'ai choisie, c'est donc Isadora Duncan quand elle a composé son solo Mother, la mère, en 1921. Et voilà, donc c'est la musique qui accompagne le solo.
Vous avez choisi de la réutiliser.
J'ai choisi de la réutiliser, ouais, je la trouve très belle. Et il faut savoir que Scriabine l'a composée quand il avait 15 ans. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup intéressé de voir comme une musique aussi puissante, aussi émouvante pouvait être composée par un garçon de 15 ans.
Alors autour de ce solo dansé, la mère, il faut commencer par raconter cette histoire qui n'est pas connue de tout le monde. Isadora Duncan qui vit cette histoire tragique, elle perd ses enfants.
Elle perd ses enfants de 4 et 6 ans en avril 1913 dans un accident de voiture sur les bords de Seine. Et voilà, les enfants se noient et c'est... Il y a eu beaucoup de tragédies dans sa vie, mais voilà, peut-être la tragédie la plus intense, la plus forte, et de laquelle elle ne se remettra pas, hormis en continuant à avancer dans la vie, en continuant à créer. Et quelques années plus tard, donc en 1921, elle est en Russie. Très inspirée par ce qu'elle vivait en Russie à l'époque. Elle a composé ce solo qui est en fait une diagonale qui a l'air très simple, qui représente la traversée d'une mère qui accompagne ses enfants jusqu'à leur dernier repos, comme elle dit dans son autobiographie Ma vie. Et moi, en fait, il se trouve que j'ai découvert ce solo un peu par hasard. J'avais choisi de travailler avec l'actrice Agathe Bonitzer pour ce film. Et donc, je commençais par faire des essais dansés avec elle. Et on était dans un studio de danse avec une chorégraphe qui s'appelle Aurélie Berland. Et on travaillait, on faisait des improvisations. Et à un moment...
Parce que vous êtes danseur au départ.
Alors, j'ai été danseur, oui, tout à fait.
C'est ça aussi, le point de départ.
Ah, oui, tout à fait, ouais. Et du coup, c'est très longtemps que je veux faire un film sur la danse. Et que je cherche un peu une porte d'entrée qui soit à la fois... personnel, mais qui me permettent aussi de développer un récit qui soit ample. Et donc on était en improvisation et Agathe fait ce geste au sol de très lent de lever un bras et de l'agiter un peu comme un adieu. Et là, mon amie Aurélie me dit ça me fait vraiment penser au solo Mother donc de Isadora Duncan. Et moi je lui dis de quoi s'agit-il, quoi. Et donc là elle a commencé à me raconter et j'ai tout de suite su que, même sans avoir vu le solo et sans avoir écouté la musique, j'ai su que c'était bon, que j'avais trouvé ma source et mon angle d'attaque pour développer un film.
Alors l'angle d'attaque, il faut que vous nous en disiez plus, parce que finalement, c'est reprendre ce récit-là, réincarner aussi cette douleur, ce parcours créatif à travers plusieurs corps qui racontent l'histoire dans le film.
L'idée, c'est sûr, c'était pas de faire un biopic ni de ni de replacer ces éléments dans l'époque, mais plutôt de voir concrètement aujourd'hui comment est-ce que des gestes centenaires, comment est-ce que des gestes anciens, tragiques, peuvent s'incarner dans des corps contemporains. Et donc ce qu'on observe, c'est comment est-ce qu'ils traversent, donc comment est-ce qu'ils rencontrent ce solo, l'existence de quatre femmes d'aujourd'hui.
Alors comment est-ce que des gestes racontent aussi, puisque la biographie, l'autobiographie d'Isadora Duncan est une sorte de fil aussi du récit. Mmh. Et il y a cette phrase qui apparaît notamment, « Je n'ai pas inventé ma danse, elle existait bien avant moi ». Alors vous pouvez dire la même chose, « Je n'ai pas inventé cette histoire, elle existait bien avant moi ».
Ouais, tout à fait, mais je pense que c'est assez juste. C'est-à-dire ces gestes-là que danse Isadora, qui peuvent sembler anachroniques aujourd'hui, et un danseur contemporain aujourd'hui ne danse pas de cette façon-là. Moi, ça m'a intéressé de les réactualiser, de voir comment des gestes anciens dépassent Isadora, dépassent cette époque-là et peuvent être toujours très actuels, en fait.
Alors,
il faut savoir que il n'y a pas de film d'époque Isadora Duncan. Elle a toujours refusé d'être filmée en train de danser.
On n'a pas de traces.
Il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de photographie d'elle qui danse ce solo. Et dans son autobiographie Ma vie, l'autobiographie s'arrête juste avant qu'elle compose ce solo.
Mais il y a quand même une sorte de petit croquis, en tout cas, qui est montré dans le film, un schéma qui représenterait ces gestes-là dont on a gardé la trace, ou en tout cas une des traces.
Alors ça c'est Bourdelle, c'est un croquis de Bourdelle. Et est-ce que c'était elle en train de danser ce solo? J'en suis pas sûr. En tout cas, c'était un geste qu'elle devait reprendre souvent et qui est très beau et qu'on a utilisé dans le film. Ouais. J'ai utilisé un maximum d'éléments d'époque, de photographies et surtout cette partition, parce que de ce solo, en fait, aujourd'hui, le document qui subsiste, c'est une partition écrite en notation Laban. Et donc du coup, moi, j'ai commencé à écrire mon récit en partant de cette première partie, donc avec incarnée par Agathe Bonisaire, qui incarne une jeune danseuse qui déchiffre cette partition, qui découvre à nouveau ses gestes, qui la bouleverse. Et ensuite, on passe dans une seconde partie, on assiste à une transmission du solo réel, donc entre une chorégraphe et une jeune danseuse trisomique. Et ensuite, dans la troisième partie, on suit l'émotion d'une spectatrice.
Qui assiste au solo.
Qui assiste au solo.
Danser.
Voilà. Et qui ensuite rentre chez elle, une vieille dame. Donc voilà, et on assiste à son émotion.
Alors, c'est comment une histoire se transmet par le corps? Vos films, Daniel Manivelle, sont peu bavard, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est plutôt un langage visuel que l'on a sous les yeux. Mais ce n'est pas non plus de la danse que l'on voit. C'est plutôt un spectacle qui est en train de se construire autour de gestes qui sont redécouverts. On ne voit pas du tout un spectacle.
Voilà. Alors comme je disais tout à l'heure, ça m'intéressait pas de travailler sur la mimique, de comment Isadora Duncan le dansait, et de faire pareil, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment aujourd'hui, que ce soit Agathe Bonisaire, Manon Carpentier, Marie Carizzi ou Elsa Voliaston, qui sont toutes très différentes, qui ont des histoires différentes, des corps différents, des âges différents, peuvent porter cette danse. Et d'ailleurs, j'ai fait en sorte qu'elles apprennent le solo chacune de façon différente. Agathe l'a appris avec une spécialiste du mouvement duncanien qui est Laetitia Doat, donc qui est française. Marika, elle l'a appris avec Amy Swanson, qui est une américaine, qui est en quelque sorte une héritière de Isadora Duncan. Manon, donc l'adolescente, elle l'a appris directement sur le plateau de tournage. Et ensuite Elsa, elle l'a vu le solo quelques fois et je lui ai dit de travailler sur son souvenir et sur son émotion. Donc moi, ça m'intéresse pas de... Je sais que ma finalité, c'est le cinéma, donc ça m'intéresse pas de montrer une danse qui soit terminée. Ce qui m'intéresse, c'est un peu comme un croquis de geste, c'est de montrer une danse au travail. Et j'ai toujours préféré voir, je sais pas, des documentaires sur des danseurs au travail que des films de danse.
Alors on les voit qui cherchent à retrouver ces mouvements, en tout cas à trouver quelque chose de personnel, puisque c'est aussi l'idée de la danse d'Isadora Duncan que de trouver son propre geste. Mais en même temps, l'histoire biographique, elle est racontée par la lecture de l'autobiographie d'Isadora Duncan. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Après la mort de mes deux enfants, je passais mes jours et mes nuits dans le studio au rideau bleu. Dans mon chagrin, je cherchais à composer une danse. Mais je ne trouvais plus le courage de faire le moindre geste. Comme j'aurais aimé que cet horrible accident fût transformé en beauté.
Damien Manivelle, on voit que finalement l'histoire est racontée, pas que par les gestes, aussi par des mots, mais souvent sous une forme non dialoguée. En tout cas, pas trop dialoguée.
Ouais. Bah, là, comme vous dites, mes films sont très peu bavards. J'essaie de travailler sur les gestes, j'essaie de travailler sur les sons, beaucoup. Et du coup, ouais, je suis passé par quelques films muets ou quasiment muets.
Même celui-ci est très bavard très non plus.
Alors, après, je ne me rends pas bien compte. Parce que...
Pourquoi vous dites le son? On a le sentiment que le son est plutôt naturel, comme ça pourrait être celui d'un espace dont on prend l'environnement sonore, les oiseaux quand on est dehors, la nature. Est-ce que c'est comme ça que vous travaillez?
Ouais, disons que j'essaye de. Alors c'est du son qui a l'air naturel, qui ne l'est pas toujours. C'est-à-dire que c'est du son qu'on va aussi chercher, qu'on retravaille en montage. Mais j'essaye toujours de flirter avec le réel et d'avoir comme ça cette que le spectateur ait cette sensation d'entendre un tout petit peu mieux et un tout petit peu plus dans le détail ce qui entoure donc les personnages. Et notamment là. Si on prend le personnage d'Agathe qui est plongé dans la biographie d'Isadora Duncan et dans ce solo, dans le travail de ses gestes, c'est aussi de voir comment est-ce que une fois qu'on arrête de danser, une fois qu'on n'est plus dans la danse et qu'on se promène dans la ville, par exemple dans un parc, comment est-ce que le réel résonne différemment et se met au diapason de tous ses sentiments.
Alors Damien, justement vous nous parlez du parc, et le parc c'est aussi le nom d'un autre de vos films, et la nature semble très importante, alors comme source d'inspiration, mais aussi comme source d'imprégnation, puisqu'il va y avoir cette lecture sous l'arbre dans Les Enfants d'Isadora, il va y avoir ces adolescents que l'on retrouve aussi dans le parc pour vivre cette histoire onirique. Est-ce que finalement la nature et l'adolescence c'est une manière de repartir dans les bases du cinéma avec une sorte de jeunesse, page blanche, à partir de laquelle toute histoire peut démarrer?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je travaille beaucoup sur la nature en ville. C'est pour ça que je travaille beaucoup dans des parcs. Et après, c'est des lieux qui m'inspirent, tout simplement. Et vu que je travaille dans une économie qui est assez réduite et qui nécessite des choix esthétiques et formels assez forts, du coup j'ai toujours besoin d'avoir une sorte de... je pars beaucoup du lieu en fait, et j'essaie d'avoir un dispositif très très simple, peu de personnages, un lieu, et de travailler comme ça, à travailler les rapports entre les gens et le rapport au réel avec ces personnages. Là, Les Enfants d'Isadora, c'est mon film le plus compliqué, le plus ample.
Alors sur cette histoire de parc, il y a quand même quelques petites formes dialoguées, des discussions entre les deux adolescents que l'on voit dans le parc. Et on va peut-être en écouter un extrait avant d'en parler.
Il y a un philosophe que j'aime beaucoup, Sigmund Freud, tu connais?
Non.
Alors lui, bah en fait, il est considéré comme le père de la psychanalyse. Tu sais, la psychanalyse, c'est un peu... tu t'analyses les comportements des personnes, ce qui se passe un peu dans leur tête, en gros, leurs réactions, leurs gestes, leurs mimiques, tout ça.
Ouais.
Et lui, ouais, il a écrit pas mal de livres là-dessus, dont les 5 leçons sur la psychanalyse, je crois bien. Et ouais, c'est vachement intéressant, du coup.
Ouais.
Parce que tu vois tes gestes de tous les jours, tes pensées, tes actes, analysés, en fait. Ils ont tous une signification. Et lui, il t'explique en gros les significations de ses gestes. Par exemple, tu vois quelqu'un, tu peux trop coiffer un truc comme ça, ça c'est une signification pour lui.
Et ça veut dire quoi?
Je sais pas, ça peut être le désir par exemple.
Ah, ok.
Damien Manivelle, on entend qu'il y a une sorte d'étrangeté dans leur discussion. On a le sentiment déjà que ce qui se passe n'est pas vraiment dans le dialogue.
Ouais, c'est une scène de drague.
C'est une scène de drague autour de Freud, sous un arbre, au milieu d'un parc. Et peut-être ce jeu qui n'en est pas toujours un, puisque vous le travaillez aussi avec des amateurs, beaucoup. Avec des gens, en tout cas, qui ne sont pas nécessairement tous des comédiens.
Ouais. Je pars vraiment des personnes avec qui je travaille. J'ai pas vraiment d'idées préconçues là-dessus. Mais donc j'aime beaucoup travailler avec des amateurs, j'aime beaucoup travailler avec des jeunes. Et partir d'eux, là par exemple sur cette scène là dans le parc, cette scène de drague, j'ai Maxime Bachellerie donc et Naomi Vogberry. Là ils sont en improvisation. Moi je donne un peu des cadres et ensuite je les laisse travailler.
Alors vous travaillez beaucoup autour de l'improvisation. Mais en même temps, comment s'écrivent vos films, puisqu'on se dit, voilà, s'il y a très peu de paroles, alors est-ce que c'est une écriture des plans, ou est-ce que c'est une idée, ou est-ce que finalement les choses se font au plateau, comme on peut dire au théâtre ou en danse?
Ouais, ça se fait beaucoup sur le plateau. Après, j'écris quand même une structure. J'ai pas de scénario normé, classique, d'une centaine de pages dialoguées. Ça, j'ai pas. J'ai plus une forme poétique, entre guillemets, entre 20 et 40 pages. J'essaye que ce soit pas trop précis.
Donc, il y a quoi? Il y a des idées?
Il y a des scènes, mais écrites en une phrase, par exemple, ou en deux phrases. Des choses très simples. J'essaie qu'il reste de l'air, qu'il reste de l'espace, pour justement inventer sur le plateau. Donc c'est une méthode qui est assez singulière, dans le sens où on demande plutôt aux réalisateurs, aux réalisatrices aujourd'hui de tout baliser avant d'entrer en tournage. Mais moi, je me suis rendu compte que ça m'allait pas. Et j'ai besoin de créer, d'inventer sur le moment.
Donc c'est les techniques du spectacle vivant que vous exportez finalement au cinéma?
Ouais, en tout cas, quand j'ai commencé le cinéma, que j'ai commencé donc à écrire des scénarios et à faire un peu comme on me l'avait appris, je me suis rendu compte que ça me rendait malheureux et je me suis souvenu du plaisir que j'avais en création quand j'étais danseur ou quand je travaillais sur des spectacles. Et je me suis dit, mais si t'avais un tel plaisir dans la création de spectacles, de théâtre ou de spectacles vivants, tu devrais pouvoir avoir le même quand tu fais des films. Donc du coup, j'ai un peu utilisé les mêmes méthodes. Et je les ai adaptés au cinéma et maintenant je crée toujours comme ça, c'est-à-dire avec des gens qui participent, on cherche, ça peut être assez chaotique un tournage avec moi, mais en même temps on est tout le temps en risque et on arrive quand même à nos fins.
Alors est-ce que cette idée de la jeunesse, elle est purement aléatoire et liée au type de propos qui ont été les vôtres jusqu'ici, ou à votre âge à vous, ou est-ce que il y a l'idée de personnage un peu laboratoire et que pour ça l'adolescence ou la jeunesse c'est finalement une sorte de début possible pour un film?
Ouais, ça l'est, l'adolescence surtout. Après, je suis très influencé par mes acteurs, donc moi tous les âges m'intéressent. Quand je travaille avec Elsa Voliaston dans Les Enfants d'Isadora, qui a 74 ans, je me laisse totalement prendre et attraper par son âge, par qui elle est, par la façon qu'elle a de se déplacer, la façon qu'elle a de penser, de parler. Et du coup, ça transforme la forme du film. Dans la deuxième partie, Marie Caridzi, qui est très énergique, ou Manon Garpentier, tout ça, ça me... À leur contact, en fait, je transforme la forme du film. Et ça, c'est très bien, parce que pour moi, un film, c'est une photographie d'un moment de ma vie, d'un moment de leur vie, d'une rencontre. Et c'est très bien si le film s'en trouve transformé.
Alors si cette histoire d'Isadora Duncan vous a inspiré, c'est aussi parce que c'est une histoire qui est cathartique et qui reprend la douleur dans le corps, qui la réincarne. Et il y a ces scènes de transmission justement assez marquantes entre l'élève et son professeur, pardon, entre la professeure et son élève, et puis entre l'élève et son public. Je vous propose d'écouter cette scène.
Tu tournes les paumes, s'il te plaît, vas-y. Essaye. Vers le haut, c'est comme ça. Essaye comme ça. C'est différent, comme ça, ça change. Et vers le haut, ça te dérobe, oui. Tu maintiens les bras, tu regardes vers le bas. Et puis, tu comprends, tu saisis ce qui s'est passé. Tes bras deviennent des ailes, elles descendent. Pour couvrir. Ouais. Ta main gauche est vers la tête, ta main droite vers les pieds, qui ne sont pas plus grands que ça. Et là, c'est la main droite qui caresse, qui va vers la tête. Et recommence par la tête. Tu peux faire, juste un détail, mais d'ici, tu peux faire, là, c'est les pieds, hop, et tu peux, la tête et la sensation de la caresser la tête.
Alors, si ce travail poétique de la danse, vous l'avez choisi, c'est aussi parce qu'il correspond bien à votre forme de cinéma dans lequel le temps est un peu distendu, dans lequel le temps devient un peu réel à certains moments. On voit les gestes se développer du début à la fin. Et cette histoire douloureuse qui est racontée avec même le récit, hein, qui raconte que la douleur est dans la poitrine, la tristesse est dans les mains. Il y a quelque chose qui se passe au moment où la danse se refait et où la douleur finalement repasse par ces corps-là.
Bah, moi, ce qui m'intéresse, je trouve chouette que vous ayez choisi cet extrait parce que c'est vraiment on entend le langage du danseur aussi, et ça, cette façon de transmettre et de parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la transformation de la douleur, c'est-à-dire, c'est comment l'art, à travers cette danse composée par Isadora Duncan, on peut aujourd'hui la connecter à des corps, comme je disais, d'aujourd'hui, et comment est-ce que cette douleur, elle se retrouve transformée.
Au début, elle n'a pas pu, hein. C'est ce que vous racontez dans le film, elle n'a pas pu danser sa douleur.
Complètement paralysée, et je pense que c'est là ce que font les personnages de mon film, c'est prendre en charge cette douleur, prendre en charge cette souffrance et la transformer par la danse, par les gestes.
Voilà, il faut la raconter, Damien Manivelle, il s'agit de bercer une dernière fois les enfants, mm-hmm. De retrouver l'enveloppe de ces corps-là, d'en dessiner la forme, c'est ce que l'on voit.
Oui, il y a quelque chose autour du fantôme, en tout cas de la présence des enfants. La mère donc les accompagne, les berce, les pose au sol, les caresse, leur dit adieu. Il y a quelque chose d'un lyrisme comme ça, et en même temps une grande douceur, des gestes maternels. Et voilà, et le film se tourne vers la vie, comme l'a fait Isadora par l'art.
Alors, il y a un côté danse du souvenir hein, qui passe justement par cette incarnation, mais il y a aussi un aspect très contemplatif. On se laisse prendre finalement par cette durée, par ces temps qui ne ressemblent pas du tout à ce que l'on peut voir au cinéma. Damien Manivelle, alors comment est-ce que vous imaginez votre place dans un cinéma plutôt bavard, plutôt dialogué, plutôt cut avec un montage serré?
Bah, pour moi, c'est ce rythme. Le rythme de mes films, il est totalement naturel. C'est le rythme que je trouve juste. C'est comme ça que j'ai envie de regarder le monde et de regarder les gens. Donc forcément, c'est comme ça que j'ai envie de. C'est ça que j'ai envie de partager. Donc, effectivement, si je compare, je me rends bien compte que mes films sont plus contemplatifs que d'autres. Mais voilà, je pense que je suis comme ça et que c'est quelque chose que je vais développer. C'est très intuitif, en fait. Je me pose pas forcément de questions sur ma place ou quoi que ce soit par rapport à ça. C'est juste que je fais vraiment ce que je sens et je suis peu dans la théorie, finalement, et j'avance de film en film, un peu à l'aveugle et beaucoup à l'instinct et avec le cœur. Donc voilà.
Vous n'êtes pas le premier que cette histoire a fasciné. Je vous propose d'écouter ce magnifique texte de John Dos Passos, l'écrivain. C'était le 18 janvier 65. Et lui aussi parle d'Isadora Duncan.
Isadora était au sommet de la gloire, du scandale, du pouvoir, de la richesse. Une école ouverte, un millionnaire sur le point de lui construire un théâtre à Paris, les Duncan étaient au centre d'un culte. Isadora définissait l'art. Quand la voiture qui ramenait ses deux enfants à la maison s'immobilisa sur un pont, le chauffeur en sortit, laissant le moteur en marche. La voiture redémarra, renversa le chauffeur et plongea dans la Seine. Les deux enfants et leur nourrice se noyèrent. Le reste de sa vie continua désespérément, confronté aux commentaires scandalisés, aux regards moqueurs des journalistes, aux menaces des huissiers, aux factures non payées des hôtels. Isadora buvait trop, ne pouvait résister au charme des jeunes hommes, se teignait les cheveux en rouge vif, ne se maquillait plus, ne se souciait plus de son apparence, ne contrôlait plus ses dépenses. Et pourtant, une grande vitalité remplissait toujours la salle de spectacle. Quand cette silhouette en forme de poire s'avançait doucement avec ses six jolis longs bras depuis le fond de la scène. Elle n'avait peur de rien, elle était une grande danseuse.
On entendait donc John Dos Passos doublé par Julien Rosa. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce texte, Damien Manivelle?
Je trouve ça émouvant.
Et justement, cette histoire qui a inspiré, comme si vous choisissiez des jeux de double, d'écho entre vos comédiennes, comme si cette histoire était tellement vaste qu'il fallait qu'elle existe à travers 3-4 personnages.
Ouais, mais comme je disais précédemment, ce qui m'intéressait, c'était de repartir vraiment de la trace qui nous reste, c'est-à-dire cette partition, et de voir comment est-ce qu'elle peut se déployer aujourd'hui. Renaître, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas qu'il y a un déploiement et après les spectateurs du film vont garder cette trace en eux et voilà, ça c'est vraiment le parcours que fait le solo. En quelque sorte, on pourrait dire que le solo, cette danse est le personnage principal de mon film.
La danse en elle-même, la danse qu'il faut retrouver, la danse un peu incertaine d'ailleurs.
Mm-hmm.
à travers laquelle est-ce que vous avez fait un travail, vous, chorégraphique aussi personnel?
Alors là, comme je disais précédemment, les quatre actrices ont travaillé différemment le solo. Moi, j'ai pris un cours un jour, j'ai un peu traversé le solo aussi une fois. Mais
ça veut dire quoi, traverser le solo? Vous l'avez dansé vous-même?
Ouais, j'ai essayé, ouais, j'ai essayé. Mais comme ça, avec Laetitia Doat, la chorégraphe avec qui Agathe a travaillé, on a fait une séance ensemble. C'était assez émouvant, mais après je les ai laissés travailler et je me suis occupé plutôt de ma mise en scène, quoi.
Oui, mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que vous en êtes passé quand même par les gestes dans la mise en scène en tant que dans la direction de vos comédiennes?
Bah, ces gestes-là, pendant des mois, ils m'ont habité forcément, quoi. J'ai écrit énormément par rapport à eux, mais j'ai toujours été plus sur le film que sur la danse, c'est-à-dire de voir comment filmer ces gestes aussi, c'est-à-dire est-ce que je découpe, est-ce que ma caméra est en mouvement, quelle distance, est-ce que je suis face, est-ce que je suis trois quarts, beaucoup beaucoup de questions de mise en scène qui partent du solo donc ça m'a énormément inspiré. Ouais.
Merci d'être venu aujourd'hui.
Merci beaucoup. Damien
Manuel, je rappelle que votre dernier film, Les Enfants d'Isadora, sera présenté du 13 au 15 août dans la compétition internationale du Festival de Locarno avant de sortir dans les salles en novembre prochain. Et en attendant, on peut dès à présent voir vos autres films en DVD ou en VOD. Je vous donne rendez-vous demain à 12h45 pour une nouvelle grande table d'été consacrée à l'œuvre de Toni Morrison. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Alexandra Brouillet, Jeanne Copé, Lou Le Joli, Lou Que Vous Viez et Julien Rosa. À la réalisation, Alexandra Longuet, à la technique, Jean-Guilain Meige.